Résonance, Alain Goudard, bonjour et bienvenue à tous. Résonance, un grand amphithéâtre à ciel ouvert, à l'écoute des nouveaux vents de la création. Résonance part sur les routes des régions pour aller à la découverte d'initiatives, de projets culturels et artistiques pour d'une part mieux en parler et d'autre part confier la parole aux porteurs de ces initiatives. Notre émission d'aujourd'hui nous conduit en Gironde, à Bordeaux, au Molière Seine-Aquitaine où Résonance a installé ses micros pour vous faire partager les échanges, les réflexions, l'état des recherches menées dans le cadre de la première plateforme nationale Culture et Santé. Rappelons qu'il existe un dispositif national Culture et Santé, dont une convention signée en 1999 entre le secrétariat d'État à la Santé et à l'Action sociale et le ministère de la Culture et de la Communication, une convention qui précise justement les objectifs et le fonctionnement de ce dispositif. Cette convention définit les axes principaux d'une politique commune en matière culturelle afin d'aider les établissements de santé à se doter de programmes d'action culturelle s'appuyant au départ sur des jumelages avec des équipements culturels, le développement par exemple de bibliothèques, la fonction de responsable culturel. Et aujourd'hui, ce dispositif Culture et Santé s'étend petit à petit au secteur du médico-social. Les directions régionales des affaires culturelles, DRAC, les agences régionales d'hospitalisation, ARS, parfois certains conseils régionaux se sont rapprochés et collaborent pour la mise en œuvre de cette convention au sein des diverses régions. Chaque région, chaque territoire présente dans ce cadre des réalités très différentes également. C'est dans ce contexte que le pôle de compétences culture et santé en Aquitaine, en collaboration avec l'Office artistique de la région Aquitaine, le Théâtre national de Bordeaux-Aquitaine et Musique de Nuit Diffusion, ont pris l'initiative de proposer deux journées de rencontres professionnelles pour faire le point, pour réfléchir ensemble sur la thématique culture et santé dans trois lieux de la métropole bordelaise, le Molière Seine-Aquitaine où nous sommes aujourd'hui, le Rocher de Palmer et le TNBA, Théâtre du Port de la Lune. Résonance sur Radio B, émission spéciale, première plateforme nationale culture et santé à Bordeaux et ses noms les 15 et 16 février 2016. Alors pour évoquer et partager les éléments de recherche et de réflexion qui vont être abordés au cours de ces deux journées professionnelles, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs invités à ce micro, et dont Françoise Liot, maître de conférence à l'Université de Bordeaux-Montaigne et chercheur au centre Émile Durkheim, Université de Bordeaux. Et vous conduisez actuellement une recherche dont les premiers résultats seront communiqués au cours de ces deux journées, une recherche axée sur les projets artistiques et culturels dans les établissements de santé. Quel changement dans les pratiques et les organisations. Alors on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas très heureux de vous accueillir. Bonjour.
Bonjour.
Et puis aussi également à nos côtés, Anne Lacassagne, et vous êtes responsable pédagogique au GAM APO. Et là, nous aurons aussi l'occasion d'évoquer justement tout un travail passionnant liant la musique et aussi et tout un nombre de patients et d'enfants justement. Bonjour.
Bonjour.
Également à vos côtés, Joël Proux, vous êtes aussi le directeur de l'Office artistique de la région Aquitaine.
Bonjour.
Bonjour. Et enfin, à nos côtés, donc Jean-Paul Ratier, donc directeur et gérant du pôle de compétences culture et santé.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à vous tous. Alors peut-être Jean-Paul Ratier, j'évoquais tout à l'heure des réalités très différentes suivant les régions, lorsqu'on parlait de ce programme, ce dispositif culture et santé. Est-ce que peut-être on pourrait essayer avec vous à la fois de parler d'historicité peut-être ici, mais un petit peu du contexte comme il se présente aujourd'hui, ou en tout cas comment il a pu évoluer au cours de ces dernières années, proprement ici en Aquitaine?
Oui, on va faire une petite approche comparative avec Rhône-Alpes par exemple.
Absolument, avec plaisir.
Donc en Rhône-Alpes, vous avez été précurseur, c'est la région qui a été la première à mettre en place une convention entre la direction régionale des affaires culturelles, l'agence régionale d'hospitalisation, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelait avant de s'appeler l'ARS, et puis la région.
Et la région qui a assez vite été partenaire, voilà. Effectivement.
Donc vous avez été les premiers à donner
le diapason.
Le diapason, voilà. Bon, nous sommes partis un petit peu plus tard, non pas qu'il ne se passait rien en Aquitaine, mais les opérateurs, les artistes qui intervenaient dans des lieux de soins le faisaient généralement avec le seul soutien de la DRAC, de la Direction régionale des affaires culturelles. Ou pas d'ailleurs, c'était certains établissements qui trouvaient sur leurs fonds propres les moyens de financer l'action. Ce n'est qu'à partir de 2006 qu'une convention a été signée entre la DRAC, l'ARH encore, et puis la région Aquitaine. La région Aquitaine a été vraiment motrice dans ce partenariat. Mmh. Enfin, ça, c'est important à signaler. Puisque l'ARH, à l'époque, était un petit peu réticente. La DRAC était convaincue, l'ARH un peu réticente, et une région très volontaire
pour
que ça se mette en place. Un peu plus tard, donc là on est en 2006, en 2011, après 5 années
d'essais, de mise en route,
nous avons considéré qu'il était important d'avoir un outil de travail commun qui aille au-delà de la seule mise en application des appels à projets, mais qui soit un outil pour accompagner les acteurs, que ce soit des acteurs de la santé ou des acteurs de la culture. D'où l'idée de créer une société coopérative d'intérêt collectif.
Et ça, c'est une originalité par rapport à Rhône-Alpes, puisque ce n'est pas du tout la même chose.
Voilà.
On a une association qui s'est mise en place. Enfin, petit à petit, les acteurs ont décidé qu'il ne suffisait pas que ce soit eux qui soient les porteurs, mais qu'à un moment donné, une association se crée. Mais là, vous êtes encore allé au-delà, je dirais, avec ce travail collectif au sein d'une coopérative.
Voilà. Et donc, dès 2011, nous avons fait un appel à sociétariat pour que des gens prennent des parts sociales dans le capital de cette future société. Et à notre grande surprise, on a eu tout de suite 70 sociétaires qui se sont manifestés et on a fondé cette société coopérative.
Et qu'est-ce qui a présidé, je dirais, à se dire c'est une coopérative qui pourrait être la solution?
Alors, je crois qu'il y avait une préoccupation, on va dire, politique, au sens fort du terme. C'est-à-dire que la gouvernance d'une politique publique comme ça devait être vraiment partagée dès le départ et donc d'avoir une structure juridique qui permette un équilibre des pouvoirs entre les acteurs de la santé, les acteurs de la culture, mais aussi les représentants des collectivités territoriales, collectivités publiques de l'État, et que chacun puisse contribuer à faire vivre le projet, chacun de la place qui est la sienne, ses intérêts, ses préoccupations, et un projet orienté par 3 préoccupations. Former les acteurs, gagner en professionnalité ou professionnalisation, l'autre mission ou l'autre priorité, d'avoir un centre de ressources pour que l'information soit disponible pour les acteurs. Et puis aussi d'avoir une capacité à initier de nouveaux projets au-delà des seuls appels à projets
qu'on peut trouver, bien sûr.
D'ouvrir la voie pour des expérimentations favorisant l'innovation sociale.
Ça me paraît quelque chose de très important.
Voilà.
et que nous n'avons pas forcément, justement, côté Rhône-Alpes. En tout cas, il y a ce accompagnement, formation, etc. Mais cette dimension de susciter, finalement, peut-être ou des innovations ou des projets spécifiques, c'est moins quelque chose qui, pour le moment, appartient aussi. Parce que, effectivement, l'historicité est différente et les enjeux différemment aussi sont, bah,
donc
sont abordés.
Cette année, on fête les 10 ans.
Et ça, c'est important.
Et les 5 ans de la société coopérative.
Donc, le rôle aujourd'hui du. Si on en vient, il y a la coopérative. Et puis, en même temps, il y a le pôle de compétences aussi, culture et santé, qui est là. Voilà, alors on peut essayer de l'articuler, par bah, quelle
société,
place alors,
la société coopérative, voilà. L'intérêt collectif et la structure juridique du pôle.
C'est ça.
Le pôle de compétences, voilà. Culture et santé, c'est l'information, le conseil, la formation et puis l'ingénierie de projet pour des innovations dans le domaine culture et santé. Voilà, donc le pôle et la SIC, on va dire que c'est la même chose. Quand on se présente, on présente le pôle et quand les gens sont un peu curieux, on va leur donner des explications sur le fonctionnement, le cadre juridique et le fonctionnement de ce projet.
Alors il y a l'anniversaire, hein, on le disait à l'instant, c'est déjà ce parcours, ces 10 années de parcours. Et en même temps, avec ces 2 journées qui arrivent, l'importance aussi à un moment donné, ben, effectivement de se réunir pour réfléchir, pour partager aussi des interrogations, j'imagine, pour aussi tisser de nouvelles projections et également d'essayer de, on en viendra aussi avec la présence de Françoise Lio aujourd'hui, une chose d'accompagner, d'amener de la formation, mais de comprendre effectivement qu'est-ce qui se passe dans les mécanismes aussi, parce qu'on se rend bien compte que quelle que soit la nature d'une action déjà en elle-même, mais là peut-être plus particulièrement dans les cadres où elle se déroule, dans ces lieux un peu plus inhabituels qui reçoivent la culture, que ce soit un hôpital, que ce soit un médico-social, voire autre, ça met en mouvement plein de choses, les acteurs, les fonctionnements professionnels, ça bouscule à plein d'endroits, et que du coup, là, il y a vraiment un intérêt à pouvoir observer ce qui s'y passe, analyser peut-être ce qui s'y passe, et peut-être ce désir d'une recherche comme celle-ci, même si l'Université de Bordeaux est partenaire, du coup, d'aller vers cette précision de ce qui s'y passe, c'était quelque chose d'important pour vous à l'estade où vous en êtes aujourd'hui ici.
Oui, avec Françoise Lio l'explicitera beaucoup mieux que je ne peux le faire. Et puis Joël Brouche donnera des exemples aussi. Il y a sur cette question du changement, il y a 2 versants.
Oui.
Celui que vous venez de rappeler, hein, c'est-à-dire le changement dans les organisations sanitaires, médico-sociales et dans les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux, des soignants. Bon, ça c'est un versant. Mais il y a un autre versant.
Absolument.
C'est qu'est-ce que ça produit comme changement dans les pratiques artistiques, dans les organisations culturelles et dans la façon d'envisager la politique culturelle.
Complètement.
Je pense que Joël aura l'occasion de.
Oui, ça va être une question essentielle que l'on va pouvoir aborder ensemble. Mais vous avez complètement raison. Il y a ce premier aspect, mais les 2 versants sont essentiels et nous questionnent de manière très pertinente, justement. J'irais même un peu subversif à certains endroits si on regarde pour la place de l'art, les publics qu'elle touche. Enfin, on touche à des fonctionnements importants aussi qui vont être là, qui sont questionnés.
Oui, tout à fait.
Résonance sur Radio B, émission spéciale, première plateforme nationale culture et santé à Bordeaux et Sénon les 15-16 février 2016. Alors nous poursuivons notre échange et avec vous, Joël Brou. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'office artistique de la région Aquitaine. Et dans ce qu'on commençait d'évoquer avec Jean-Paul Ratier, au travers de ce dispositif culture et santé, c'est qu'effectivement, il y a le fait que l'artistique va être forcément bien sûr en jeu et que souvent aussi ça amène que ces pratiques artistiques se déroulent dans des lieux inhabituels justement de culture et que du coup c'est aussi quelque part la relation, ce qui est questionné de ces individus avec l'art, avec les œuvres, avec les artistes et c'est aussi peut-être se dire quelque part, en tout cas peut-être côté des artistes, si je peux dire, comment rétablir des liens, justement, entre l'art, les œuvres, les artistes et les couches d'une population ou de la population qui en sont le plus éloignées. Et finalement, c'est un peu questionner aussi la place de l'art et de l'artiste dans notre société d'aujourd'hui.
Oui, c'est, je crois, un des enjeux majeurs aujourd'hui de la politique développée dans le cadre de ce qu'on appelle culture santé, que de rebattre complètement les cartes et de se reposer peut-être des questions qu'on ne se pose plus parce qu'on a inventé dans la culture des dispositifs, des tuyaux, des possibilités d'être subventionnés, des réponses à des appels à projets. Et peut-être qu'on a oublié de se poser les questions essentielles qui sont celles de la place de l'art, de l'artiste, l'adresse non pas à des publics mais à des populations. Et en abolissant des frontières, il n'y a pas d'un côté ce qui propose et ce qui dispose.
Et ce que dispose, oui.
Mais comment ensemble on invente autrement. Et je crois que dans le champ culture et santé, on découvre des expériences et des protocoles qui forcent le respect et qui nous amènent, nous, dans le champ culturel, à repenser non seulement nos pratiques, mais peut-être à demain, nécessairement, à réinventer une économie particulière pour des approches particulières. Parce qu'au-delà de la question des lieux, c'est-à-dire de l'endroit où ça se passe, c'est autre chose, je crois, qui se joue.
Qui se joue, aussi.
La question du temps, la question de l'expérimentation durable, tout ça avec du sensible et tout ça avec de l'artiste et de l'artistique au milieu. Mais ce sont des questions qui nous obligent, nous, à revoir les économies de ces projets, de voir comment ces projets peuvent être réalisés en contexte et avoir pour finalité ce contexte, mais aussi comment on se donne les moyens, parfois, de faire en sorte que ces protocoles-là soient réexpérimentés ailleurs.
C'est ça.
Et c'est, je crois, le sens de la plateforme aussi, que de permettre de partager ces expériences et ces protocoles. Et ça nous amènera à sortir de ce dispositif, de ce système dans lequel aujourd'hui on se paralyse tous, de la production-diffusion qui devient une finalité dans des circuits qui sont paralysés, encombrés, et peut-être revenir à l'essence même des choses.
Et là, il y a vraiment une très grande pertinence. Je veux dire, c'est parce que tout ce travail d'action culturelle, d'action artistique au plus proche, enfin, dans cette recherche de proximité, et puis le fait aussi qu'on va se trouver dans des établissements qui vont complètement, je pense, si je prends un exemple, un musicien, il va pouvoir peut-être arriver dans un établissement, peut-être pouvoir mettre en place une polyrythmie, puis il va s'apercevoir que la polyrythmie, elle ne peut pas. C'est-à-dire que du coup, d'arriver avec un savoir déterminé, ça va être autre chose, qui va se mettre en relation avec aussi ces gens-là, et que ça change le positionnement. Je ne viens pas forcément donner un savoir, mais je viens à la rencontre des individus qui sont là, et comment je vais être en musique ou comment je vais pouvoir être en musique avec eux.
Oui, ben, on pourrait dire que sur scène, dans les lieux institués du spectacle vivant, les artistes enfilent un costume, là ils sont obligés de se mettre à nu, et c'est ça qui est intéressant.
Absolument.
C'est-à-dire qu'ils réinventent et ils reconstruisent avec le contexte, et je crois que c'est l'un des défis moi qui me passionne dans ce champ culture et santé.
Et je crois qu'il est, vous avez raison, je pense qu'il questionne très profondément tous ces enjeux. Et du coup, quand on parlait un petit peu de l'état des lieux, si on peut dire très rapidement, puisque le temps nous est court dans le temps d'une heure, mais c'est quand même intéressant aussi de voir ça. Vous avez vu, côté des équipes artistiques aussi, évoluer ce raisonnement, parce que j'imagine qu'il y a eu des initiatives diverses et autres, qu'on reposait peut-être sur des fondamentaux, peut-être pas tout à fait encore aussi pointus ou peut-être axés sur ce que vous venez de dire. Mais est-ce que là, vous sentez qu'au niveau des équipes artistiques, ce questionnement-là, aujourd'hui, il est très présent ?
Alors, ce qu'on peut constater, je crois vraiment qu'on peut rendre grâce au pôle de compétences culture et santé d'Aquitaine d'avoir permis ça, c'est qu'il y a encore une dizaine d'années, pour beaucoup d'équipes artistiques, le champ de la santé était un réseau de diffusion supplémentaire, comme on a pu à un moment donné penser qu'en milieu carcéral, il y avait des pistes nouvelles de diffusion ou dans les médiathèques. Absolument. Et là, on sent aujourd'hui, vraiment auprès des équipes artistiques, l'envie de s'investir autrement. C'est-à-dire que c'est pour eux une façon de repenser leur pratique artistique, c'est de ça. Repenser leur rapport à des gens, à des populations particulières. Et je crois que c'est une des réussites singulière de ce pôle de compétences. Ce n'est pas un tuyau de plus dans lequel on va aller chercher des ressources financières pour compléter d'ailleurs une activité plus noble qui serait celle de la diffusion dans les scènes labellisées. On va commencer par les plus grandes. Et c'est, je crois, là le défi des politiques publiques du XXIe siècle, c'est de qualifier ces démarches-là et de sortir de ce système libéral de la production-diffusion.
Vous avez tout à fait raison, je crois que c'est ça qui est questionné très fortement. Et du coup, quand vous évoquiez tout à l'heure Jean-Paul Ratier que la région était moteur, en tout cas, je dirais en tant qu'entité politique aussi, ça c'est important aussi que comment vous sentez vous aussi les diverses collectivités territoriales engagées dans la région vis-à-vis de ces questions ?
Déjà, la région, elle s'est dotée d'un outil associé qui est l'OARA pour justement permettre d'inventer, de chercher des expériences comme celle-là. Donc, structurellement, elle s'est dotée d'un outil, mais on a repéré en France d'autres régions qui ont des outils qui pourraient nous permettre de mener des réflexions-actions du même type. D'ailleurs, l'ODIA Normandie, qui est l'homologue normand de l'OARA, a joué le jeu de cette plateforme en aidant à la venue du spectacle L'Empereur c'est moi. Demain, le spectacle qui sera présenté au TNBA dans l'espace public est accompagné par Réseau en scène Languedoc-Roussillon. Donc je pense qu'il faut d'abord que les politiques publiques se donnent les moyens structurels de permettre ces expériences et sortir de la logique de l'appel à projet dans laquelle on a tendance quand même à enfermer ces politiques qui sont souvent considérés comme à la marge.
Tout à fait.
Et moi, je pense qu'il faut sortir de cette logique-là et créer les conditions pérennes et structurelles d'une expérience durable.
C'est là où je crois que c'est important ce que vous vivez ici, où on n'a pas totalement le discours que vous tenez, et que je trouve justement fort et important et pertinent. On ne l'a pas partout encore aujourd'hui dans cette posture-là. En tout cas.
On ne l'a pas partout, mais c'est plus qu'un discours, puisqu'on essaie, nous, de le mettre en acte.
Ouais.
Mais Jean-Paul Ratier, qui a toujours cultivé plusieurs casquettes, et c'est ça qui fait le fondement même de sa démarche artistique, puisqu'il est par ailleurs directeur de Script, d'une association qui, depuis toujours, navigue là-dedans, s'est toujours fait renvoyer par les collectivités, au fait qu'il devait rentrer dans une case pour être reconnu et être accompagné. Et il a mené combat inlassablement pour montrer que c'était en étant dans plusieurs cases différentes.
Exactement,
donc
ouais.
C'est les collectivités qui doivent réformer leur politique publique, être dans des logiques beaucoup plus transversales et pas les projets s'adapter au cloisonnement tels qu'ils sont conçus aujourd'hui.
Résonance sur Radio B, émission spéciale, première plateforme nationale culture et santé à Bordeaux et ses noms, 15 et 16 février 2016. Alors nous venons d'entendre un petit extrait du document Vivons l'instant, et cet extrait s'intitule Serge Triboléneuf, qui était réalisé à l'hôpital Charcot-Perrens, unité Charcot à Bordeaux, lors d'une résidence de la compagnie Fracasse. Et c'est le jeu de tout ce qu'on vient d'entendre, de travail régulier et d'improvisation et de mise en musique des résidents, des patients, des personnels et des musiciens de la compagnie Fracasse. Alors peut-être je vais me tourner vers vous, Françoise Liot, dans la suite des propos de Jean-Paul Ratier et aussi de Joël Brou. On voit tout ce que met en branle finalement à plein de strates, effectivement, la présence d'une action artistique dans ces établissements, la mise en tension, la mise en mouvement aussi, ça va au niveau des postures professionnelles, des organisations, que ça provoque aussi peut-être des écarts. Et c'est ce qui vous a semblé, vous aussi, important de conduire, de regarder, je dirais, d'observer encore beaucoup plus près, et qui a conduit à mettre en route, j'en parlais tout à l'heure dans l'introduction de cette émission, une recherche intitulée « Les projets artistiques et culturel dans les établissements de santé, quels changements dans les pratiques et les organisations ?» Et je crois que c'est une recherche que vous poursuivez également avec Sarah Montero à vos côtés. Donc il s'agit de comprendre ce que ces projets font aux pratiques et aux modes d'organisation, je dirais que ce soit du côté du médico-social et du côté artistique.
Exactement. Le point de départ un peu de cette recherche, ben c'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire au fond de réfléchir à des politiques transversales, donc intersectorielles, sachant qu'on a construit les politiques publiques aussi en France sur des logiques extrêmement transversales, sectorielles, la santé d'un côté, la culture
tout
de l'autre,
fait.
À tel point qu'on a des domaines aussi qui ont une tendance à créer des entre-soi. Et donc le point de départ dans cette recherche, c'est de comprendre justement comment pouvaient fonctionner aussi des politiques transversales et qu'est-ce que ça faisait finalement aux organisations que de se confronter justement aussi à des mondes qui sont forcément complètement différents, avec des valeurs différentes, avec des objectifs différents. Et qu'est-ce qui se passait dans la rencontre finalement de ces mondes sociaux ? Qu'est-ce qui se passait effectivement dans les pratiques, dans les représentations bien évidemment, mais aussi au niveau des structures, c'est-à-dire est-ce qu'au fond les organisations avaient une capacité à bouger, est-ce que ces projets justement, ces projets qui sont souvent expérimentaux, innovants, permettaient aux organisations de bouger et dans quelle mesure justement ça permettait aux organisations aussi de pouvoir innover, de pouvoir se transformer aussi. Donc c'est ça le point d'entrée dans notre travail, il est autour effectivement de ce que produisent ces projets.
Donc du coup, ça vient parce qu'un établissement de santé, c'est une institution avec ses fonctionnements, avec ses règles, avec ses contraintes. Donc vous avez passé, je dirais, entre... Il y a les acteurs, bien sûr, qui vont être là. Il y a le projet artistique en tant que tel. Ça veut dire que toute votre recherche, elle prend tous ces éléments séparément. Elle essaie de disséquer, je dirais, un petit peu ce qui se passe ou...
Oui, c'est une recherche qui est une recherche essentiellement qualitative, donc avec des rencontres avec les différentes catégories d'acteurs. Aussi bien, justement, côté du soin, les directions, les cadres, les personnels de santé, et côté artistique aussi, les établissements culturels, les artistes aussi qui participent à ces projets, justement les interrogeant sur leur fonctionnement, etc. Ça nous a permis de rencontrer vraiment aussi les problématiques de chacun de ces mondes, c'est-à-dire de rendre compte aussi que ces projets, ils croisent vraiment aussi les enjeux de chacun de ces mondes, avec leurs difficultés. C'est particulièrement net dans le domaine du soin, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment confronté aussi à tout ce qu'on entend dire de temps en temps, c'est-à-dire la souffrance au travail, le temps de travail qui est extrêmement réduit, une bureaucratisation des tâches, une souffrance aussi du personnel qui a l'impression de moins bien faire son travail parce que justement confronté à des transformations aussi structurelles. Et tous ces éléments-là, ça remonte vraiment justement quand on nous parle des projets culture santé.
C'est exactement ça qui
c'est vraiment au cœur justement des problématiques. Et de la même manière aussi pour le domaine de la culture, ça a été dit justement par Joël Brouche. C'est vrai qu'on est aussi au cœur des questionnements sur les logiques de production, de diffusion, de travail au plus près justement de contextes sociaux, d'immersion dans des problématiques, au plus près des publics, mais qui ne sont plus vraiment des publics, là, qui deviennent aussi des acteurs partie prenante justement de ces projet. Donc c'est ça ce qu'on voit vraiment apparaître aussi dans la recherche.
Et est-ce que du coup, quand vous analysez, je dirais, ce qui se passe dans ces deux mondes, le fait d'échanger avec eux, de les mettre en dialogue, finalement, si je peux dire, en miroir aussi également, fait prendre conscience aussi qu'il y a, là aussi, vous parliez de transversalité tout à l'heure, mais qu'il y a des problématiques qui se rencontrent de part et d'autre. Est-ce que ça...
Alors, j'espère que les journées, là, justement,
vont servir
à ça, au fond, parce qu'effectivement, c'est intéressant de voir que du côté de la santé, on parle de démocratie sanitaire, on parle de droit des patients. Ouais. Du côté de la culture, on parle de droit culturel, on parle de démocratie culturelle aussi.
Tout à fait.
Et justement, il y a des problématiques assez proches. Nous, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'à la fois, ces projets, ils sont au centre de ces problématiques. Et en même temps, on a le sentiment quand même que c'est toujours un peu à la marge. Ça reste un peu aussi à la marge. Et c'est ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, que dans le champ culturel, c'est à la fois des facteurs d'innovation, d'expérimentation, qui sont aujourd'hui très investis quand même par les artistes, qui ont envie de s'investir dans ces projets-là. Et en même temps, quand même, une difficulté à véritablement transformer aussi justement le monde de la culture. Et le côté de la santé, on remarque aussi la même chose. C'est-à-dire qu'à la fois, on n'a jamais autant parlé aujourd'hui de démocratie sanitaire. On en parle beaucoup. On parle justement des patients, de redonner une place aux patients, de déhiérarchiser, d'amener justement de savoir profane aussi dans l'hôpital et donc de sortir d'une relation de pouvoir entre le patient et le soignant. Et en même temps, on voit que ces projets-là, ils sont complètement dans ces questionnements-là. Ils questionnent complètement cet aspect-là. Ouais. Et en même temps, ils n'arrivent jamais vraiment à rentrer par cette porte-là, et ils sont toujours un petit peu à la marge, et on dit oui, d'accord, alors quand on va prendre en compte la démocratie sanitaire, c'est un domaine à part entière, mais la culture, c'est à côté. Ouais. Donc c'est aussi ça ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu pourquoi ces projets ne sont pas un petit peu mieux intégrés. Il ne s'agit pas de dire qu'ils soient forcément au centre de l'hôpital, parce qu'on peut penser que ce qui est au centre de l'hôpital, c'est quand même autre chose que la culture, on imagine, puisqu'on est tous peut-être amenés à y aller un jour, mais en même temps, ça reste autant quand même à la marge de ces préoccupations-là, malgré tout, quoi.
Donc du coup, ça veut dire qu'on évoquait aussi que la culture et santé aujourd'hui s'étend au médico-social, c'est-à-dire l'étendue de la recherche. Est-ce qu'il y a aussi, j'imagine bien, un certain nombre d'hôpitaux, un certain nombre de compagnies, mais est-ce que dans votre angle de recherche aujourd'hui s'intègre un petit peu cette nouvelle venue d'aller au médico-social?
C'est pas encore ce qu'on a le plus développé, hein, parce qu'on est sur une recherche sur 3 ans, donc là on arrive à la première année de recherche. Oui. Donc on a commencé par le secteur hospitalier dans ses différentes dimensions. Là, on est en train justement de travailler sur le médico-social avec les maisons de retraite, avec justement plus la question culture, handicap aussi. Donc c'est des domaines aussi qu'on est en train d'explorer petit à petit aussi de cette dimension-là.
Résonance sur Radio B, émission spéciale, première plateforme nationale culture et santé à Bordeaux et ses noms, 15 et 16 février 2016. On poursuit un petit peu notre échange, Françoise Liot, pour essayer un peu aussi peut-être dans des facettes du questionnement que peut-être que vous aussi vous abordez un petit peu. Finalement aussi, quand arrive une action artistique dans un établissement avec son organisation et autres, il y a ce qu'on a dit un petit peu déjà tout à l'heure, elle bouscule dans tous les registres. Donc du coup, ça met aussi en rapport aussi quelque part avec le changement finalement, avec quelque chose qui du coup va peut-être obliger à créer des choses, va peut-être obliger à des découvertes, à des constructions, voire même peut-être aussi à des aspects conflictuels, parce que du coup, il met en rapport, il met en tension. Est-ce que, du coup, c'est aussi un peu ça, le fait que chaque institution a ses règles, mais du coup, c'est qu'est-ce qu'on en fait, finalement, de ces règles qui est en jeu ou comment vous sentez, vous aussi, ce rapport au changement qu'introduit le projet artistique, mais qui, lui, va être facteur de changement, bien sûr, pour le lieu qu'il accueille, mais, on le disait tout à l'heure avec Joël Brouche aussi, bien évidemment, va mettre aussi en changement, en tension et en mouvement l'équipe artistique en tant que telle, de par le fait du lieu dans lequel elle va s'inscrire.
Alors, je crois qu'il y a effectivement deux façons de percevoir aussi la question du changement. C'est pas tout à fait pareil dans le domaine artistique que dans le domaine de la santé, me semble-t-il. D'abord parce que dans le domaine artistique, alors il me semble que les artistes, ils sont en recherche aussi d'autres façons de créer. Et donc, même si tous n'investissent pas ce champ-là, et c'est logique aussi, mais il y a quand même des envies d'aller chercher ailleurs, dans d'autres secteurs.
C'est déjà une culture, on pourrait dire.
Oui, il y a une envie de bouger ces lignes, de chercher ailleurs d'autres raisons de créer, d'autres façons de créer. Donc, ça bouge du côté des équipes artistiques, je dirais, presque par le fait que c'est un peu la nature aussi de l'art, d'aller explorer des nouveaux chantiers, de nouvelles direction. C'est beaucoup plus difficile effectivement quand on est du côté des établissements culturels. Là déjà ça travaille différemment parce qu'il y a des façons de fonctionner qui se sont installées et qu'il n'est pas évident de bouger. Et puis du côté de la santé c'est peut-être plus organisé, plus hiérarchisé, mais pas forcément, hein. Les établissements culturels sont aussi très, très, très organisés, hiérarchisés. Et du coup, là, on voit qu'effectivement, le changement, il n'est pas du tout évident. Il n'est pas du tout évident. Dans les pratiques, ce que nous disent les personnes qu'on a rencontrées, c'est notamment du côté de la santé, c'est que l'hôpital est extrêmement cloisonné, extrêmement hiérarchisé, et qu'on a des projets qui permettent justement de faire autrement, de déhiérarchiser, parce que dans un projet culturel, on n'y participe pas en fonction de son statut, mais on y participe en fonction d'une volonté, et donc ça amène autre chose, d'autres façons de construire des collectifs de travail et d'être ensemble justement dans ces collectifs de travail. Donc c'est intéressant ça du point de vue de ce que ça produit effectivement sur l'organisation aussi, de l'hôpital. Côté établissement culturel, c'est pareil, ça oblige aussi à envisager autrement les projets, à se faire violence par rapport justement à des projets qui ne correspondent pas tout à fait aux logiques de diffusion habituelles, où des fois ça nécessite d'être dans des rapports plus intimistes, ou dans l'espace public. On verra demain aussi avec le projet artistique qui est présenté en déambulation, par exemple. Et du coup, ça amène à travailler autrement, à faire autrement. Dans les deux cas, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça fait vraiment monter aussi des nouveaux besoins de médiation et peut-être aussi des nouvelles façons de penser la médiation. C'est-à-dire qu'on est dans une confrontation d'univers qui ne peuvent pas se réaliser sans qu'il y ait vraiment un travail de traduction et même un travail de terrain extrêmement important parce que, alors, dans la santé, ça se fait vraiment dans des interstices qui sont laissés par les soignants, mais il n'y en a pas beaucoup, des interstices. Donc, ça nécessite vraiment aussi vraiment d'articuler complètement les choses avec le projet de l'hôpital. Et donc, ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait vraiment un travail de médiation extrêmement conséquent, quoi. Et ça, c'est aussi un des éléments que l'on voit se développer de façon très forte.
Alors, peut-être on a aussi à nos côtés Anne Lacassagne. Justement, dans ce que vous venez de nous évoquer, Françoise Lillot, on peut aussi le retraduire, je dirais, sur un endroit très ciblé, finalement, avec ce qui se passe à Pau, avec le GAM. Et peut-être en réaction, Anne Lacassagne, avec ce que vient de nous dire Françoise Lillot, comment vous, qui portez aussi ce projet dans ce cadre-là, comment vous pouvez nous dire un peu votre sentiment par rapport à tous ces aspects-là que met en œuvre, finalement, le projet artistique dans un cadre, dans un établissement de santé?
Bien, déjà, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a parlé du travail sur la durée.
Oui.
Et le travail à l'hôpital s'inscrit aussi dans l'histoire du GAM, bien sûr. Et que le GAM, il a 40 ans d'existence sur Pau, presque 40 ans. J'étais au démarrage pratiquement de cette aventure. Donc, il y a forcément une grande évolution. Nos fondamentaux, c'était quand même un travail sur les pratiques collectives. Et on développe l'apprentissage et la création au sein du GAM. Et on a toujours souhaité porter la musique dans les lieux où elle n'était pas forcément...
Elle n'était pas forcément être là.
Voilà. Donc, effectivement, comme on disait, par rapport à l'hôpital, ce qui s'est passé, c'est que un chef de service, la demande elle est venue de l'hôpital lui-même. Le chef de service du service pédiatrique à Pau est venu nous voir et il avait des interrogations justement par rapport à son service et notamment et tout particulièrement par rapport à la réanimation pédiatrique. Mmh. Il sentait bien que d'un point de vue technique, les gestes des soignants sont très performants. Ils maîtrisent bien le sujet et il faut continuer à le maîtriser d'ailleurs.
Absolument.
Puisque la situation est quand même parfois très difficile. Mais il sentait bien qu'il y avait une autre dimension à apporter dans ce service et une dimension qui apporterait peut-être plus d'humanité. Il avait une intuition à ce niveau-là et il est venu nous voir, je crois, parce qu'il s'est dit dans notre service qui est si bruyant, la musique a peut-être quelque chose à voir, même si ça semble paradoxal. Et donc, bon, ce que nous avons fait, effectivement, donc, j'ai démarré dans ce service de réanimation pédiatrique à Pau en 2008. Et donc, je continue ce travail. Donc, ça s'inscrit sur
on
la
est
durée,
vraiment dans,
là aussi.
Voilà, dans la
ah,
durée
oui,
aussi.
Tout à fait.
Et l'importance de ce temps, justement.
C'est fondamental, parce qu'il faut qu'on se connaisse dans les équipes, il faut, faut vraiment travailler ensemble. Et le premier travail que nous avons abordé ensemble, c'est un travail sur l'environnement sonore. C'est-à-dire soignants et musiciens, aller écouter ce qui se passe, aller voir ce qu'on peut améliorer, aller voir ensemble ce que l'on peut travailler à ce niveau-là, puisqu'effectivement, on s'est aperçu que c'était des lieux quand même extrêmement sonores. Nous avons fait des prises de son, nous avons étudié le niveau sonore des services, ce qui nous a permis non seulement de faire un travail un peu de repérage par rapport au son et par rapport à ce que pouvait vivre le bébé dans son incubateur, mais on a fait aussi ensuite des montages qui devenaient aussi des montages de musicaux. Je me suis amusée à partir de mes balades dans les services, etc., à faire des montages qui finalement, au moment de l'écoute, étaient effectivement permettaient de transmettre ce qui se passait, mais aussi de rentrer déjà dans une dimension un peu artistique. Et puis, on s'est est apparu comme une évidence que dans ces services très sonores, où on sentait des parents fort démunis devant des bébés qui ne peuvent pas forcément toucher dans des situations extrêmement, parfois très dramatiques, en tout cas difficiles à vivre, et bien on s'est aperçu que peut-être on pouvait toucher ce bébé par la voix. Enfin, pour moi, c'était quelque chose qui m'a semblé une évidence aussi. Et toucher ce bébé par la voix, c'est compliqué pour les parents. Ils sont démunis, ils sont... Donc comment faire ? Eh bien certainement en se lançant dans une aventure collective, en rentrant tous ensemble dans cette dimension artistique. Et donc on a travaillé avec les soignants et on continue à travailler pour qu'ils s'emparent eux-mêmes.
Qu'ils s'emparent eux-mêmes aussi des choses.
C'est ça, et qu'ils vivent cette émotion artistique. Donc nous avons travaillé forcément sur la voix, mais pas que. Ils sont venus aux gammes, on a travaillé sur des temps de création musicale à partir des dispositifs très importants que nous avons.
Ils ont vécu la musique aussi sur toutes ses formes.
On a fait des séances de gamelan,
qui
vivent de manière très forte aussi la musique venant
d'ailleurs. La musique collective venant d'ailleurs.
La musique, c'est ça, puisqu'ils sont aussi amenés à rencontrer des personnes de toute origine. Nous avons, à partir de chants très simples, de berceuses, nous avons fait des créations musicales aussi que nous avons données dans le patio de l'hôpital, alors avec des gens effectivement non musiciens mais toujours avec une grande exigence, donc on est parti dans des choses simples mais qui étaient intéressantes d'un point de vue artistique aussi parce qu'elles étaient remplies d'émotions et de qualité musicale, oui. Donc c'est tout ce chemin que nous avons fait ensemble dehors, dedans, qui a permis on continue ce chemin, mais aujourd'hui vraiment on sent que tout le service est complètement dans ce projet. Chose importante aussi que je dois signaler, c'est que quand ce médecin m'a demandé ce que l'on pouvait faire, je dis ok, mais si on travaille dans le service, moi je souhaite que toutes les personnes soient impliquées. Je ne voulais pas que ce soit le fait de quelques volontaires.
Quelques volontaires, mais que ça implique vraiment toute une équipe.
C'est ça. Alors forcément, ça a été un peu compliqué.
J'imagine.
Je savais bien qu'il allait falloir affronter quand même certaines situations.
Un peu délicates.
C'est ça. On m'a obligée, vous savez. Je ne voulais pas venir. Bon, je sais. Mais aujourd'hui, tout le monde a, je crois, compris. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça
la
fait
nécessité
vraiment...
que tout le monde soit au même degré d'implication.
Mais bien sûr, on n'était pas là après pour que quelques personnes viennent faire du joli dans le service. C'est vraiment que tout le monde soit impliqué, qu'ils sentent qu'est-ce que peut apporter le chant.
Et est-ce qu'on peut dire que du coup, le fait que bon voilà, il y a ces mises en tension parce qu'il y a les inhabitudes, il y a les peurs aussi d'aller rencontrer l'autre, il y a les rapports de pouvoir, la relation à l'autre, à autrui et autres. Mais le fait que tout ça se mette en travail et justement avec le temps, c'est fécond.
Ah mais tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oh, j'ai eu un beau retour dernièrement. Comme on a réalisé un film, Christelle Véran, qui est réalisatrice, a fait un film que je trouve très juste et très beau par rapport à ce travail. Vraiment un document artistique aussi. Et alors qu'on présentait ce film dans une salle de cinéma, il y a eu un petit débat ensuite, comme aujourd'hui. Et il y a une personne qui m'a raconté qu'elle était dans le service au mois d'août, avec un bébé qui était né prématurément. Moi, je n'y étais pas. Et les soignantes sont venues presque tous les jours l'accompagner autour du champ, etc. Ça fait vraiment maintenant partie. C'est pas rien, ça. Parce qu'il faut oser, en tant que soignante, porter ça. Et elles ont apporté leur voix et elles ont permis à cette maman de chanter pour ce bébé. Et elles lui ont permis de vivre un moment très heureux à l'hôpital. Ce qui est quand même exceptionnel.
C'est quelque chose de très important. Et du coup, on voit au travers, en tout cas, de ce témoignage, Françoise Liot, toutes les strates qui vont être mises en jeu dans un projet. Il y a aussi le facteur de la durée, finalement. C'est-à-dire que du coup, on voit que si les choses elles s'installent, c'est aussi parce qu'il y a une durée. Si on est plutôt dans quelque chose d'opportunisme, Joël Brouche le rappelait tout à l'heure, on voit bien apparaître côté ministère culture, par exemple, dans de nombreux ensembles conventionnés, il faut faire absolument une diversification des publics, une recherche des publics. Et on voit quelquefois par opportunisme ou parce qu'il faut être dans le cahier des charges, on va aller faire telle action à telle autre, mais ça va saupoudrer un peu et ça ne va pas rentrer dans un engagement dans la durée, en tout cas.
Tout à fait. La question de la durée est très importante. Et puis, il y a quelque chose qui est très important aussi dans ce qui vient d'être dit, c'est que on a toujours l'impression, et c'est un peu logique, que la finalité des projets, c'est le patient, bien évidemment. Mais en même temps, ce qu'on constate, nous, c'est que ça ne peut pas se mettre en place si l'équipe, justement, n'est pas impliquée dans le projet. C'est-à-dire que des fois, on veut aller trop vite. C'est-à-dire on fait quelque chose pour les patients. Mais ça peut rester très superficiel, justement. Ça peut rester en périphérie de l'hôpital, parce que justement, ça n'a pas pris, finalement, il n'y a pas eu d'appropriation justement chez les personnels. Et ça, c'est très, très important aussi de voir que le résultat, il passe aussi par une appropriation de l'ensemble des équipes.
Joël Brou, je voulais qu'on revienne un instant par rapport à ce que vous disiez là tout à l'heure. Et puis, le fait aussi que on va voir le secteur médico-social qui rentre aussi en jeu. Alors, sans dire qu'il est complètement différent, mais dans ce qui se passe à l'hôpital. Mais aussi, on va avoir des personnes qui vont être aussi dans une posture de se dire aussi comment je peux aller dans des lieux. Alors, je vais plutôt parler des lieux de référence d'institutions culturelles ou des lieux où on pratique, où on fait partager le contenu musical ou artistique quel qu'il soit. Mais ça va être aussi de travailler la question de l'accès à tous ces publics-là, à non seulement dans leur établissement, mais que aussi ça puisse être quelque chose qui puisse leur permettre d'aller aussi dans un conservatoire, dans un lieu de théâtre, et donc d'avoir accès aussi à tous ces contenus-là. Oui, alors on touche à des organisations, on vient de parler d'organisation. Là aussi, on va toucher à des hiérarchies, à des fonctionnements, à des finalités aussi, quelquefois.
Oui, mais là, la question qui est posée, c'est la question éternel de l'accès à des pratiques artistiques et culturelles. Moi, je rejoins, il y a un point stratégique qui a été dit par François Zillot, c'est-à-dire que parfois on pense que pour, même si le patient est la finalité à l'hôpital, pour accéder à lui, il faut accéder d'abord au système. Et j'ai envie de dire dans le sens inverse, nous, on aurait besoin d'être sûr que tous les personnels encadrants, agissant dans le secteur de la santé, puissent être considérés, valorisés par rapport à leurs propres pratiques artistiques et culturelles. Et que c'est peut-être à partir de cette dynamique-là qu'on va pouvoir enclencher d'autres dynamiques qui nous permettront au final de toucher les patients. Ça, c'est une réalité qu'on doit prendre en compte. Et pour ça, on a besoin j'ai presque envie de dire, de structures intermédiaires. C'est-à-dire entre le monde de la culture et le monde de la santé, il y a aujourd'hui des structures intermédiaires comme la SIC qui s'est créée, parce que c'est là peut-être que chacun dépose, j'ai envie de dire, ses armes et se réinvente. Comme nous, on considère qu'un organisme associé comme le nôtre est peut-être l'endroit où les différentes collectivités peuvent se retrouver, chacun dépose les armes et les stratégies qui sont les siennes dans un cadre qui est plus difficile à faire bouger, et c'est dans ces espaces-là qu'on peut réinventer autre chose.
Jean-Paul Ratier, vous partagez aussi ce point de vue de Joël Brouche?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, à travers ce que viennent de dire aussi et Françoise et, mmh. et Anne, on voit bien que ce type de démarche, c'est pas. On peut l'expliquer à partir de l'évolution sémantique de cette politique publique qui s'intitulait au départ « culture à l'hôpital ». Oui. On va amener la culture à l'hôpital présupposant qu'il n'y ait pas de culture dans l'hôpital.
Bon. C'était ça, absolument.
Je sais que quand j'ai commencé avec mon association, oui. on a refusé, on a objecté, mais vraiment, on n'a pas utilisé ce terme culture à l'hôpital. Et les premières actions que nous avons menées, notamment avec l'Institut Bergonié, se sont intitulées culture et santé. Et ça, c'est essentiel, c'est de mettre, de faire travailler l'un sur l'autre ou l'un par rapport à l'autre, le domaine de la culture et le domaine de la santé. Et ça, ouais. ça doit être vraiment quelque chose de fondamental pour orienter tout projet. Mmh. Et le projet, il se fait pas que dans l'hôpital, il se fait, et Anne le disait très bien, dans le fait que le GAM ouvre ses portes à des pratiques musicales en dehors de l'hôpital pour le personnel, c'est aussi sortir de l'hôpital, aller voir ce qui se fait ailleurs, se dépayser par rapport à une culture professionnelle, aller voir ailleurs, et c'est comme ça qu'il y a un enrichissement mutuel. Nous, le pôle de compétences culture et santé, on définit notre projet, c'est relativement simple, il y a le versant plateforme de coopération interprofessionnelle. Donc ça comprend toutes les missions dont j'ai parlé tout à l'heure, d'information, de conseil, de formation. Et puis l'autre versant, c'est le laboratoire de l'innovation sociale, c'est-à-dire de commencer à explorer des nouveaux terrains. Par exemple, là, on parle de l'hôpital, mais aujourd'hui, avec l'hospitalisation à domicile, il faut réviser complètement notre manière d'appréhender l'hôpital. L'hôpital, il n'est plus simplement entre les murs.
C'est ça.
Il rentre aussi à la maison maintenant,
aujourd'hui.
Donc, comment faire entrer des pratiques artistiques et culturelles à la maison, avec les équipes qui viennent à la maison. Bon, voilà, donc c'est... Enfin, c'est passionnant, mais ça suppose aussi que les artistes, les opérateurs culturels acceptent, et moi j'insiste beaucoup là-dessus, acceptent de bouger par rapport à une représentation qui est la leur, de « je suis détenteur d'une œuvre artistique et je viens vous l'apporter ». Ça, c'est fini. Enfin, je veux dire, c'est complètement dépassé. Quand Joël disait qu'il faut penser aujourd'hui les politiques artistiques, culturelles du XXIe siècle, il faut les penser avec les autres.
Absolument.
C'est dans cette relation aux autres qu'on peut inventer des choses nouvelles, et sur le plan artistique, et sur le plan culturel.
Non, mais je crois que ça va être un peu notre conclusion aussi, puisque nous arrivons au terme de cette émission, mais ça montre bien l'enjeu qui se situe à cet endroit-là, et il est extrêmement important, et d'où je trouve aussi l'idée de l'SMH, de cette plateforme de région en région, où on voit qu'aussi ça va être aussi une dynamique à partager avec l'ensemble de tous ces acteurs, tous ces territoires.
Nous avons souhaité, collectivement, inviter des propositions artistiques.
C'est déjà un signe.
D'autres régions, absolument. Puisque les trois spectacles qui ont été choisis, Joël Brouche le disait tout à l'heure, l'un vient de Normandie, l'autre ce soir de Rhône-Alpes, et le troisième vient de Languedoc-Roussillon.
C'est un signe fort, en tout cas.
Oui, c'est de dire, faisons circuler aussi nos expériences, partageons-les, et puis c'est en partageant les expériences qu'on va se reconnaître aussi dans nos différentes expertises.
Absolument.
Et apprendre à faire travailler nos expertises ensemble. Voilà.
Merci en tout cas à tous les trois. Je pense qu'on a pu donner un état d'esprit de toutes les questions, en tout cas, et puis même au-delà même des questionnements, des axes prioritaires, je dirais, qui sont à travailler aujourd'hui, qui sont même une urgence à travailler aujourd'hui. Et je vous remercie vraiment beaucoup de nous avoir fait partager déjà vos points de vue, justement, et puis je pense qu'ils vont alimenter fortement la journée de demain où sera rendue justement une partie des travaux de Françoise Liot, justement, dans cet état de recherche. Donc, nous arrivons au terme de cette émission spéciale de Résonance dans le cadre de la première plateforme nationale culture et santé à Bordeaux et ses noms, organisée par le pôle de compétences culture et santé en Aquitaine, en collaboration avec l'office artistique de la région Aquitaine, le théâtre National de Bordeaux-Aquitaine et Musique de Nuit Diffusion. Merci aussi à toute l'équipe de Scène Aquitaine de nous avoir accueillis ici, dans ces locaux, pour réaliser la présente émission. Et merci à vous tous pour vos témoignages. J'étais accompagné aujourd'hui à la technique par Nicolas Galliot. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr réécouter la présente émission, la podcaster, sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Très belle journée sur Radio B.